I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
I take you for a ride on the devil's ship. I take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin.
Charles, bienvenue.
Yes, merci, merci.
Finalement.
Yes, on est là.
On est là. Comment t'aimes les studios temporaires de l'édition Juste pour rire du podcast?
J'aime ça, mais c'est ça qu'on disait juste avant le podcast. Il y a une fenêtre, comme premièrement. D'habitude, ouais. Un studio de podcast, c'est vraiment chez quelqu'un dans sa pire pièce.
Ouais, ouais, c'est ça, dans le sous-sol. Puis on cache tout, ouais.
Ouais, puis la personne s'excuse pour juste le mess, puis comme...
Ouais, je sais même pas c'est à qui ces bas-là. Ouais. C'est vraiment ça. Non, c'est fun, j'aime ça le setup qu'on a ici. Puis on est chanceux aujourd'hui, ça fait beau.
Mm-hmm.
On a du soleil, ça va être fun. Comment est-ce que tu vis le festival jusqu'à date?
Ben moi, j'ai fini mon gros stretch hier.
OK, alors maintenant, t'es off.
Ouais, pour le festival, je suis off. Dans le fond, moi, hier, c'était mon gala Juste pour rire.
Oh, celui de, qui était... que Simon Gouache, t'es là aussi?
Gouache, c'est ce soir.
OK, Gouache, c'est ce soir. Ouais.
Moi, c'était Rosalie Vaillancourt.
C'était fun?
Ouais, c'était vraiment cool.
Ouais, hein? Oh,
ouais, c'était nice. Malade. On a joué devant 750 personnes.
Puis t'as vu que le monde était vraiment excité d'être là, hein? Parce qu'ils n'ont pas sorti, ouais. Ouais.
Les gens applaudissaient trop. Honnêtement, quasiment trop. Là. Il y a des trucs en rodage que comme j'avais, mettons, 2-3 surenchères. Puis là, c'était comme, ben non.
Merci, Jean!
Enough!
Là, mais c'est bon, ça!
Ouais, 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 ouais. Ça a vraiment bien été. Je pense que c'est mon meilleur avis. Là. C'était mon quatrième, puis je pense que c'était le plus le fun. Là.
Oh, nice! OK, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'année prochaine. Ça va être la 40e. L'année prochaine, je pense que ça, ouais, ça va être un grand festival.
Ah, c'est clair, ils vont vouloir mettre le paquet, puis idéalement, on sera pas...
Si les variants ne tuent pas,
ouais,
ils vont pas
ça.
Nous tuer.
Non, moi, je suis de moins en moins optimiste, j'ai l'impression qu'on...
Je sais pas, pour un bon bout de temps maintenant, le dernier mois, je pense que j'étais vraiment optimiste. Puis hier, on faisait un podcast, puis dès qu'on a terminé, il y a du monde qui travaille ici qui ont sorti, puis ils commençaient à dire, je sais pas si t'as vu qu'est-ce qui se passe dans les autres villes, aux États-Unis, Los Angeles, il y a un autre variant, il y a le monkeypox, c'est une autre chose qui est venue de la Nigérie, il y a plein de choses. Ils étaient comme tout, ils paniquaient, moi j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dehors? Moi j'étais heureux, je pensais qu'on a passé ça, puis maintenant tu me dis qu'il y a plein d'autres choses, mais je sais pas qu'est-ce qui est vrai. Paniquer.
Mm-hmm.
Puis qu'est-ce que c'est juste, tu sais, on prend une histoire puis on l'agrandit à cause que on a passé tout ça pendant une année.
Ouais, je pense qu'on est anxieux encore que ouais. Ça réarrive, là. C'est clair, mais en même temps, ça évolue tellement vite. J'ai l'impression que l'humain évolue plus assez rapidement pour.
Pour toutes les microbes et tout ça, tu penses, c'est ça, ouais. Peut-être, on sait pas. Comment est-ce que tu as rentré dans le stand-up, toi? Parce que je demande ça à tout le monde.
Ouais.
C'était quoi qui t'a motivé?
C'est un concours de circonstances d'une certaine façon. Moi, j'ai commencé vraiment jeune. J'ai commencé, j'ai fini l'école de l'humour, j'avais 21 ans.
Oh, OK.
Fait que je suis rentré à 19 après mon cégep.
Pourquoi est-ce que tu voulais rentrer à l'école?
Pour moi, c'était comme le chemin naturel, classique. Puis, tu sais, justement, j'avais 19 ans. Fait qu'on dirait que le chemin des bars puis de juste jouer, il n'existait pas vraiment. T'sais, on dirait que dans ces années-là, au Québec, ça commençait. T'sais, t'as un Julien Lacroix qui, 2 ans plus tard, comme a réussi dans ce parcours-là. Maintenant, on ne peut plus en parler, Julien, évidemment. mais c'était pas un parcours
ça,
qui
existait.
Ça,
c'est pas fini encore, toute cette histoire-là?
De Julien?
Ouais.
Ah, ben, je pense que c'est plus calme, là. Puis, tu sais, il s'est retiré, puis il fait ses affaires, là, mais...
Je rentre pas dans les détails des tabloïds.
Mm-hmm.
Alors, c'est juste ce que j'entends des personnes. Alors, je ne connais jamais toutes les fausses histoires,
mm-hmm.
mais j'avais l'impression que ça commence à diminuer, mais peut-être pas.
Je sais pas. Tu sais, c'est comme arrivé en même temps que Marie-Pierre. Marie-Pierre est revenue un peu, ce que je trouve particulier, là, tu sais, pour être franc. Mais,
Elle est retournée un peu vite, non?
Ouais.
Elle avait faim, c'est ça.
Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que c'est la faim qui l'a menée à... agir comme ça.
C'est ça.
Tu peux pas retomber là-dedans, là, mais bref.
Okay, alors toi, tu rentres dans l'école, tu as dit « Ok, je vais aller là-bas, c'est mon parcours, je veux vraiment
Puis,
apprendre des choses. »
Je viens d'une famille, mettons, moi, mes parents voulaient que j'aille à l'école, là, idéalement. Là. Comme j'ai toujours eu relativement du succès académique, fait tu sais, eux autres, c'était comme « Va à l'école, c'est une bonne place, c'est encadrant. » Puis quand t'es jeune, ça vaut la peine. Plus tard, j'ai l'impression que tu perds peut-être un peu ton temps. Là, mettons, passer 30 ans, comme, va juste travailler tout de suite. Mais à 19 ans, ça dérangeait pas de comme être dans une bulle pendant deux ans. Non, c'est ça. Puis fait que ça a commencé là, mais avant ça, j'étais pas vraiment. J'allais pas vraiment vers l'humour. J'avais comme pas ce tempérament-là. Puis au secondaire, on avait genre trois choix. On avait art plastique, on avait musique, puis art dramatique. Et moi, j'étais la première année où le programme d'art dramatique a été créé, tu sais. Puis je l'ai pris un peu par dépit de comme « je suis pas bon dans les deux autres, puis on va prendre ça ».
Mais t'aimais ça, l'art dramatique? Ils t'ont fait quoi, des pièces de théâtre, des choses comme ça?
Ouais, c'était une pièce par année, puis beaucoup d'impro. C'était surtout de l'impro. Puis, tu sais comment les gens sont au secondaire, là, juste sont, wow. sont trop gênés d'aller en avant, tu sais. Puis moi, j'étais juste comme, ben, je vais y aller, tu sais, je vais prendre le...
Et t'étais déjà drôle?
Ouais, en fait, naturellement, ça a bien parti en impro. Nice. Je sais pas si j'étais drôle ou juste, je me laissais plus aller que les autres. Puis, tu sais, j'aimais beaucoup l'humour. J'avais été voir des galas avec mes parents. J'aimais beaucoup Louis-José Hood à l'époque, tu sais.
Alors, tu étais au courant de qu'est-ce qui se passait?
Ouais, exact. Ouais. J'ai toujours aimé ça. Puis, ça a comme été le début de « Ah, mais peut-être que c'est pour moi, ça. » Fait qu'à partir de là, je me suis inscrit dans l'équipe d'impro. J'ai été pris. Tu sais, à partir de là, tu vois un peu les autres personnes qui essaieraient ce métier-là. Ou qui ont une certaine curiosité à l'égard de l'humour, du jeu, puis ça allait vraiment bien. Fait que j'étais comme, ah, OK, mais même parmi les bons des différentes écoles, je me démarque. Fait que je pense que je peux peut-être faire ça comme métier. J'ai fait secondaire en spectacle, en personnage.
Ouais. Quel personnage?
J'étais un personnage qui s'appelait Marc Lamotte, qui était un personnage d'impro que je faisais des fois, qui était célibataire et qui pratiquait la glissade sur tube. C'était ça son...
Tu sais pourquoi je te demande ça? Parce que je parlais avec des humoristes qui m'ont dit, pendant leur parcours, ils faisaient des personnages où au début, c'est comme ça qu'ils ont sorti. Puis il y a certaines qu'après, c'était difficile de sortir, mm-hmm. d'arrêter de faire des personnages. Ou s'il y avait un personnage qui était vraiment top, c'est difficile de faire quelque chose d'autre. Parce que le monde est habitué. C'est pour ça que j'étais curieux avec toi, comme quand tu faisais la première fois que tu as fait un personnage, c'était pour le pièce de théâtre, t'as-tu pensé, et je peux-tu juste faire des personnages? Parce que moi, je suis pas bon dans ça. Moi, je peux pas faire des personnages.
Mm-hmm. Ben, je me trouvais pas si bon en personnage.
OK.
Fait que c'était pas. C'était plus une façon de me protéger, tu sais, parce que c'était tout mon entourage. T'sais, moi, j'allais à l'école à Laval, je venais de Laval. Fait que moi, dans ma tête, si je me plantais à secondaire en spectacle, c'était vraiment moi qui se plantait devant tout le monde.
Pas t'sais. Tout le monde, juste le monde de Laval.
Ouais, c'est ça, exact.
C'est pas important, non.
Mais moi, à ce moment-là, c'est tout ce que j'avais, tu sais. Tu vois, je partais d'où, là?
C'est pas drôle, hein?
Puis, fait que je me protégeais, ça a super bien été, j'ai gagné. J'ai fait la même chose au cégep. J'ai fait cégep en spectacle, mais cette fois-ci...
Puis qu'est-ce que t'as fait?
En stand-up.
Oh, tu vois l'évolution?
Ouais.
OK, ça, j'aime ça.
Puis c'est cool. Le numéro que j'ai fait, des fois, je le refais encore.
C'est encore bon?
Ouais.
Charles, ça, c'est vraiment impressionnant.
Ben, c'est, mettons, j'ai gardé comme 2-3 minutes, mettons.
Mais quand même.
Ouais.
Moi, je vois des choses que je faisais, ça fait 10 ans ou whatever, puis je demande aux gens, est-ce que tu peux brûler cette cassette? C'est quoi ça? C'est pas une cassette, c'est sur l'ordi. Brûle l'ordi! Ah, ça, c'est cool!
Ouais, fait que j'ai fait ça, puis j'ai parti une soirée d'humour aussi au cégep Montmorency, parce que c'est un cégep où il y a plein d'humoristes qui ont fait de l'impro. Tu sais, c'est l'ancien cégep de Martin Petit, Stéphane Fallu.
Oh, Fallu, elle est là!
Ouais, Fallu est allé là, Mehdi Boussaïdan est allé là, Phil Roy. Puis tiens, ils ont sensiblement mon âge, là, ils étaient comme 3 ans puis 5 ans plus vieux, fait que moi, je les ai vus jouer, je les ai vus faire de l'humour à Montmorency, fait que à partir de là, j'organisais une soirée une fois par mois.
Ça marchait.
Ça marchait, là, tu sais, c'était plein. Il y avait 200 personnes à ce moment-là. Les soirées d'un bar commençaient à pousser, mais c'était pas un phénomène aussi populaire là, que ce l'est peut-être là. Là.
Puis même là, tu sais que je trouve bizarre de Laval, plein de choses, mais, non, mais qui n'ont pas un vrai comedy club.
Ouais.
Tu sais combien de fois je pense, parce que je trouve des partenaires puis je rouvre un club. Je pense à ça beaucoup parce qu'il y a une demande.
Ouais.
Puis quand je fais des petites shows là-bas, tu vois que le monde aime l'humour, ils sont au courant de ce qui se passe, puis ils viennent à Montréal, ils vont au centre-ville pour voir des shows.
Mm-hmm.
C'est comme, c'est fucking bizarre que personne ne pense pas d'ouvrir un bon petit club.
Ouais.
Bar club, ouais.
Ah, puis les humoristes iraient, je veux dire, Métro Montmorency.
C'est juste là, ouais.
Ouais, c'est là. C'est...
Puis même quand je fais les shows de Jacob ou Émile, eux, ils sont beaucoup plus loin.
Ouais.
Puis on fait ça.
Ils sont tellement loin dans Laval. Ouais. Ce quartier-là, il n'y a absolument rien, là.
Mais c'est fun, tu vois, là-bas, c'est plein, c'est le mal. Monde est prêt, ils sont heureux. Alors imagine si c'est quelque chose de plus central de Laval, mm-hmm. ça va marcher.
Ben, je pense aussi, moi, c'est, tu sais, chaque fois que je vois ça, je me dis aussi, il faudrait qu'il y ait un comedy club. Il y a le Centropolis, qui est comme un...
Hub.
Un petit hub. Je ne sais pas si ce serait la bonne place, vu qu'il n'y a pas le métro, mais dans ce coin-là, là, moi, je pense que ça fonctionnerait.
C'est là où, dans ma tête, je la vois aussi, comme proche de là où, de l'autre côté, il y a les comic books ou le Rockaberries. Mm-hmm. C'est quelque part là-bas, ouais.
Saint-Martin, ouais, ce serait une bonne idée. Il y a tous les gens de Sainte-Thérèse, Rosemère, même Saint-Jérôme. Là. Tu sais, si tu habites à Saint-Jérôme, là, tu vas pas au bordel à Montréal. Là. Mais Laval.
Laval, ça, ouais, une demi-heure, ça se passe. Ouais.
Ça serait possible.
Même moins qu'une demi-heure, je pense.
Ouais.
Pour aller jusqu'à là, s'il n'y a pas de trafic.
Ouais, ouais, c'est ça.
Même moins, ouais. Trafic, ça, c'est une autre. T'as-tu déjà joué à Saint-Jérôme?
J'ai fait un show à Saint-Jérôme. Dans le temps, il y avait une espèce de soirée d'humour qui était animée par Ouellette.
OK.
Mais c'est flou dans ma tête. Là. C'était le genre de soirée où, comme, j'étais jeune quand j'ai joué. Je pense que j'avais 21 ans, puis c'était tous des gens de, comme, 45 ans, puis pas la crème de la crème, là, je dirais, de manière polie là, dans mes souvenirs. Fait que... C'est comme quelque chose que j'ai oublié là, avec les années. Là. Mais ouais, Laval, ça marcherait. Puis cette soirée-là que je faisais au cégep, c'était drôle. Là. Moi, j'étais naïf. J'appelais des gérants pour booker des humoristes. Là. Moi,
ça a marché?
Ouais, je me suis retrouvé au téléphone avec Michel Grenier à parler pendant comme 2 heures d'humour puis de comment booker. Puis, nous autres, c'était le cégep qui payait. Fait qu'il y avait un délai de comme une semaine ou deux. Puis Daniel Grenier, son frère, était venu jouer. Puis là, le lendemain, il m'appelle, puis il est comme « Daniel n'a pas été payé. »
Michel le mafioso.
Oui, c'est ça. J'ai goûté à Michel qui règle ses comptes, là.
c'est drôle, c'est fantastique. C'est je pense à Michel maintenant comme « Hey, Daniel, t'es pas payé. » C'est que ça veut
ça
dire
se fait
ça?
Pas, ça, là. Ouais, là ça se fait pas.
Il va se faire payer. D'une façon ou de l'autre, il va se faire payer. T'as compris? Attends, Michel. Puis tu devrais le dire, hey, écoute, c'est 2 semaines, ça va prendre 2 semaines.
Ouais, c'est ça, j'étais comme, c'est le cégep, là, excuse-moi, ça s'en vient, ça.
J'ai déjà joué à Saint-Jérôme avec Mike, puis j'aime les personnes là-bas.
Ouais?
Ouais, ouais, c'était beaucoup de fun. C'était chaleureux. Ils apprécient vraiment le stand-up parce que pour eux aussi, je pense pas qu'ils ont un club là-bas.
Nope.
Alors, c'est juste si quelqu'un vient en théâtre ou si quelqu'un fait un open mic. Alors, oui, il y a des places que des clubs peuvent marcher, mais moi, je pense à Laval là-bas parce que c'est au milieu.
Ouais.
Tu vas avoir toutes les régions autour.
Ouais, ça, moi, je pense qu'il y a de la place pour au moins 2-3 autres clubs là, au Québec. Là.
Oh, wow, ouais.
Tu sais, je pense un autre à Montréal, assurément. Ben là, ça s'en vient, je pense, d'une certaine façon, là, mais comme il y aurait de la place pour en avoir plein. Même des villes, là, genre. Sherbrooke, tu sais, il y a plein d'étudiants. Je suis convaincu que ça marcherait, même un 50 places. Tu sais, moi, des fois, je pars en voyage aux États-Unis, puis j'arrête dans des petites villes, puis il y a un club qui est tout petit, puis c'est vraiment cool, là, ça marche. Hein.
Ça, c'est une bonne idée, on va le dire. Par exemple, Sherbrooke, tu as un club, puis tu as toujours des humoristes qui viennent de Montréal, mais tu ne les annonces pas. Comme au bordel, ils n'annoncent pas qu'ils vont être là, tu sais, les fins de semaine. Alors, les étudiants, ils vont là-bas, ils ne savent pas. Mm-hmm. Oh, Charles Pellerin ici, Mike Ward, tu sais jamais, mais c'est toujours une expérience.
Mm.
Ça, c'est une bonne idée.
Ouais, puis tu passes le. Moi, je passerai le week-end. Là. Si tu arrives le jeudi, puis tu repars le samedi, puis tu as fait 6 spots ou même 8 spots, ça vaut la peine. Là.
Ouais, ça, c'est quoi l'affaire? C'est maintenant, le monde est ils ont plus peur de commencer une business. Mm-hmm. Avec tout ce qui s'est passé, tu sais, avec l'argent et tout ça, c'est plus difficile.
Ouais.
C'est ça.
Vrai, c'est vrai, mais...
Mais on est quand même chanceux. Avec, à Montréal, il y a plein de rooms que le monde fait, tu sais, des salles, le monde font pour du stand-up en français. Puis en anglais aussi, on a le frère de Sugar Sammy, Sid.
Ouais.
Lui, il fait plein de shows, puis ils sont tous bons. Il y a plein de gens qui viennent. Alors, on est quand même chanceux, on a d'opportunités mm-hmm. pour pratiquer, pour jouer. Mais ouais, si tu sors un peu, c'est difficile de tester tes jokes. Si tu habites à Sainte-Thérèse ou puis tu es humoriste, c'est vraiment difficile d'avoir le temps.
Ouais. Faut que tu remplisses la salle, faut que tu aies comme déjà un public. Tu sais, tu peux pas.
C'est difficile. Comment est-ce que tu as déjà un public? Tu dois commencer par zéro, comme tout le monde.
Ça te prend tes jokes, là. C'est ouais. vrai. Mais tu vois, à Montréal, je trouve qu'on est comme. On est entre les deux. On a beaucoup de spots, mais pas tant que ça non plus. Tu sais, on dirait qu'on.
Parce qu'on est trop, tu penses?
On est beaucoup, mais c'est surtout, je pense qu'on a le barème du sold out. On dirait que si c'est pas toujours sold out, c'est quelque chose qui ne vaut pas la peine.
Ouais, c'est un échec.
C'est un échec un peu, mais tu sais, il y a une variable monétaire là, tu sais, personne veut perdre des sous là-dedans, mais
ouais.
J'ai l'impression que c'est ça, faut que ce soit toujours plein, sinon ça meurt.
C'est drôle comment notre perception change hein? Quand tu commences, t'es comme oh non. J'ai permis devant 5 ou 10 personnes, je suis peur, je suis anxieux. Alors comme il y a juste 50 personnes. Tu vois comment les perceptions changent? C'est intéressant comment ça marche. Oh, alors, OK, tu as fait ça, je ne vais pas oublier. Alors, tu rentres dans l'école, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui était le plus important à l'école de l'humour pour toi? C'est-tu les amis que tu as fait ou c'est-tu une technique que tu as appris? Parce que beaucoup de gens, je le parle, est-ce que tu savais comment écrire des jokes mm-hmm. ou mettre le punch, puis ça t'a aidé? Tu sais, tout le monde prend quelque chose de différent de l'école, puis beaucoup me parlent de leur crew. Puis ça ouais. j'adore ça parce que moi, je suis un gars qui aime ça. J'aime l'amitié, puis j'aime avoir, tu sais, c'est d'avoir ton crew loyal. Alors, j'adore quand j'entends ça. Toi, t'as-tu un crew?
Ah oui, moi, c'est ça. Là. C'est ouais, ça hein? qui est arrivé. En fait, moi, j'ai tellement été chanceux. Quand je suis arrivé au cégep à Montmorency, j'ai rencontré Jay Fournier.
OK.
Je sais pas si tu connais, qui est un humoriste aussi exceptionnel. Puis on avait un ami en commun. Genre, on allait prendre notre photo pour genre la carte opus, là, l'autobus. Puis on jasait, puis tu sais... Notre ami en commun, les deux, on l'aimait correct. Là, c'était pas genre notre ami proche. On s'est juste mis à cliquer full. Puis à force de parler, on a réalisé que les deux, on voulait faire de l'humour.
Puis l'autre gars?
L'autre gars, pas du tout. Pas du
Vous
tout.
Avez donné une face push.
L'autre gars, lui, il faisait de la chew en classe. Là. Il chiquait du tabac.
Oh, ouais?
Puis il crachait dans sa bouteille d'eau. Fait qu'il accumulait genre pendant un cours une bouteille d'eau.
T'étais ami avec une noire. Cowboy?
On prend ce qu'on peut à Laval. Ouais. Hein?
Un cowboy de Laval. T'as-tu une cheval? Non.
Pourquoi tu...
Mais il crache dans des bouteilles. Oh, fuck, OK, ça c'est deux ans.
À partir de là, tu sais, on faisait les shows ensemble, on a fait les auditions de l'école, les deux, on a été pris. Fait qu'on habitait ensemble, on était coloc. Puis j'ai deux autres amis d'impro, Charles-Antoine Desgranges puis Simon Boisvert qui sont rentrés. Fait qu'on est rentrés puis on était quatre amis déjà vraiment proche.
Ah, oh, ça, c'est cool.
Puis il y avait d'autres personnes d'impro. Fait que, tu sais, on s'est très vite ramassé un groupe de 5-6 qui se connaissaient par cœur.
Puis chaque jour, vous étiez à l'école ensemble, vous faisiez des
exact.
Examens. Ah, oh, ça, c'est cool.
Ouais, dans les mêmes locaux. Fait que moi, c'est surtout ça que j'en retire, là, l'expérience d'être avec ces gens-là. La réalisation aussi que j'allais pas apprendre mon métier à l'école. Que c'était ma responsabilité et non celle des professeurs. Tu sais, d'une certaine façon...
Ça a pris du temps à apprendre ça?
Ben, mettons, la première année, là, je suis vraiment arrivé comme une éponge. Là. Pour moi, c'était une institution. Tu arrives, tu vois tout le monde que tu idolâtres. Tu te dis, c'est sûr qu'il se passe quelque chose ici de magique. T'sais. Fait que j'ai vraiment pris ça au sérieux. Chacun des devoirs, j'étais un élève modèle. Puis à la fin de la première année, j'étais comme... Ah, c'est-tu quoi? Je pense que c'est pas tout à fait la bonne direction pour moi. J'ai l'impression que je me perds un peu. C'est pas ce que je veux faire. Tu sais, moi, je voulais vraiment faire du stand-up. Là. À partir de là, c'est ça que je voulais faire. Puis on me poussait en personnage, on me poussait à explorer différents trucs. Puis pour moi, c'était pas ça. Là. J'étais comme, gars, je veux développer ce que je veux faire. Tu sais. Puis la deuxième année, je me suis mis à jouer dans un bar. Puis là, la combinaison des deux était parfaite. parce que j'avais comme une espèce de... J'avais les bars où je pouvais roder, puis j'avais l'école de l'humour où on me rappelait de penser un peu plus grand, d'avoir une démarche artistique, de penser à ce que je veux faire. J'ai pas le bon terme, mais d'essayer de rendre ça grandiose un peu, ou tu sais, comme abouti, tu sais, le plaisir de travailler super fort sur quelque chose, puis que ça aboutisse. Fait que ça, ensemble, c'était le match parfait pour moi, là.
Puis les bars que tu jouais, c'était-tu toujours... T'as amené tes amis, c'était le même clic? Ou est-ce que vous êtes séparés un peu, puis t'as essayé comme ta main, OK, je vais essayer de me booker là-bas, là-bas? Ou c'était en équipe? Et on est booké là-bas, on va faire des spots?
C'était vraiment seul, en fait.
Mais tu vois comment ça change vite?
Ouais, c'est fou. Ouais. C'est... Puis, tu sais, moi, j'étais dans ceux de ma cohorte qui voulaient vraiment jouer dans les bars, puis j'allais voir des shows à tous les soirs. Comme si je jouais pas, j'allais voir un spectacle, c'est sûr, sûr, sûr. Okay. Puis mes autres amis, tu sais, il y en a deux qui prenaient ça plus relax, mettons le soir, qui faisaient leur truc, qui chillaient, ce qui est correct aussi, là. Mais, fait que moi, très vite, je me suis mis à jouer, surtout avec mes contacts que je m'étais fait à Montmorency. On dirait que ça m'a donné un peu de vent dans le dos. C'est ça, tranquillement, tu sais, j'allais souvent au jockey. Je me faisais des amis. Tu sais, tu pouvais pas jouer au jockey pendant l'école, mais on m'invitait genre à l'open mic, comme des petits trucs comme ça.
Tu pouvais pas pendant l'école?
Non, c'était comme une règle qu'il avait mis parce que je pense que quand Phil Roy a parti à la soirée, Charles Deschamps bookait, puis il était à l'école de l'humour. Fait que c'était comme, ah, je veux pas booker les pas bons de ma cohorte. Si je book les bons, j'aurais pas le choix de booker eux autres aussi.
Ah, oh, ça c'est drôle.
Mais, ouais, j'ai commencé à jouer dans les bars de plus en plus. Puis, tu sais, à l'école de l'humour, il y a 3-4 personnes que l'école poussait beaucoup. Puis, j'en faisais pas partie, mais à l'extérieur de l'école, j'étais lui qui jouait le plus.
Oh, intéressant.
Fait que les gens étaient comme, ah, t'es-tu dans la cohorte de Charles, tu sais? Parce que j'étais la seule personne
qui voyait
jouer. Ouais. Fait que quand je suis sorti de l'école, moi, jour 1, je jouais régulièrement, là, j'étais prêt, j'avais un bon numéro. Puis à partir de là, ça n'a jamais arrêté, là.
Oh, ça, c'est fucking cool.
Ouais,
j'aime penser à ça. Mais c'est ça que le monde doit faire. Puis c'est difficile pour nous de dire ça à des personnes parce que c'est une job vraiment unique.
Mm-hmm.
Mais moi, j'ai arrêté. Moi, en anglais, on passe ça, c'est l'École nationale de l'humour. Alors moi, c'était vraiment, je travaillais à temps plein. Puis pendant, tu sais, le soir, toutes les salles que je peux aller faire du stand-up, même si ce n'était pas le Comedy Nest, j'étais là. Je me bookais partout. Si c'était une bar, whatever. Alors, je travaillais à temps plein.
Tu travaillais où?
Je travaillais, j'avais plein de jobs, mais j'étais au EA, je faisais des jeux vidéo. Après je travaillais dans une compagnie, on faisait des applications mobiles.
Okay.
Toujours dans le tech, toujours dans ça. Puis, je me souviens, en 2007 ou 2008, j'avais commencé l'université à Concordia. Alors, quand je travaillais à temps plein, je faisais du travail, école, puis après, quand j'avais commencé le stand-up, c'était travail, école, puis du stand-up. Puis des fois, dans la même journée, je travaillais jusqu'à 5-6 heures, j'étais allé à Concordia, c'est à Guy, je faisais le classe que j'avais pendant le soir, puis après, à 10 heures, je peux aller là-bas. Alors, j'allais faire du stand-up, j'étais fatigué chaque jour, mais j'arrêtais jamais.
Ah, c'est la plus belle vie que je peux imaginer, moi.
Oh, j'étais fatigué, mais tu sais quoi? Pour moi, c'était la plus belle vie. J'étais heureux.
Exact.
J'étais vraiment heureux.
Exact, parce que tu pouvais jouer. Fait que toute ta journée, tu avais tes trucs, mais tu le faisais en pensant à la fin de ta journée.
Ouais. Puis, à cause que je travaillais à temps plein, je pouvais payer tout ce que j'avais à payer. Tu sais, mon loyer, je conduisais. Mais mes amis que je fais du stand-up, qui eux, ils ne voulaient pas travailler à temps plein ou ils ne voulaient pas travailler du tout pendant la journée, eux, c'était plus difficile. Mais moi, au moins, j'étais fatigué, mais c'est... Je savais que je peux manger le lendemain. J'avais pas besoin qu'ils me payent les 20 pièces pour le spot ou whatever. J'étais d'accord. Mais c'était beaucoup de travail.
Ah, c'est clair. Puis ces gens-là qui n'avaient pas de job, est-ce qu'ils ont arrêté la plupart?
La plupart, ouais. Puis c'est drôle parce que un de ces gars que j'avais commencé avec, il me parlait avant, je pense, 6 mois. Ouais, que c'est avant qu'on réouvre tout. Puis on avait une conversation. Lui, maintenant, il faisait des cryptos. Puis il m'a dit, tu sais, au début, quand on avait commencé ensemble, il m'a dit, je savais que c'est juste toi qui va arriver. C'est ça qu'il m'a dit. Je savais que c'est juste toi, parce qu'on était trois. Puis il a dit, je savais que c'était juste toi, parce que tu étais le seul qui travaillait fort. comme t'arrêtais jamais d'écrire, t'allais à ta job, tu sortais, tu faisais tout ça. Puis moi, je sentais un peu paresseux devant toi. Puis je savais que ça va juste être toi. Mais moi, quand j'étais avec eux, j'avais l'impression que les trois, on va le faire. Ça va fonctionner, c'est sûr. Moi, je pensais...
Pensais-tu que tu étais le moins bon du groupe?
Au début, oui.
Ouais.
Au début, oui, parce qu'eux, ils faisaient ça plus long que moi. Puis je voulais toujours apprendre. Puis le gars que moi, je pensais était toujours meilleur que moi, c'est lui qui m'a dit, tu sais qu'il était plus drôle que moi. Tu vois, t'écris meilleur que moi, le monde rit plus avec toi. Tu dois continuer. Puis tu dis, de quoi tu parles? On va continuer. Mm-hmm. Puis lui, il savait de ce temps-là. Il disait, I don't know. Puis il y avait... ouais, ça, c'était un peu... Quand je pense à ça, c'est triste parce que c'est un gars vraiment drôle. Puis je connaissais plein de monde drôle, mais en anglais, c'est vraiment différent. Si tu n'as pas vraiment une bonbon chance, comme quelqu'un ne te donne pas quelque chose que mm-hmm. tu peux grimper dessus, puis c'est vraiment difficile de rester à Montréal puis de faire une carrière.
OK.
C'est vraiment, vraiment difficile.
Faut que tu déménages très vite.
Faut que tu déménages très vite, puis que tu as quelque chose qui t'attend.
OK.
Ouais, alors, c'est pour ça que maintenant, moi, je pousse les gens qui font ça en anglais, puis sont bons, puis sont bilingues. Je leur dis, hey man, commence à le faire en français. Mm-hmm. Puis comme moi, tout le monde a peur, mais le monde qui a peur a moins un accent que moi. Ils n'ont pas d'accent. Ils sont parfaitement bilingues, puis ils ont peur.
C'est quoi le pire qui peut arriver? Tu retournes en anglais?
C'est ça que je dis. C'est quoi le pire? Peut-être que tu n'es pas drôle en français. Peut-être que tu n'aimes pas. Tu sais, super, rien. Rien, tu continues. Mais il y a plus une opportunité, puis tu vas aimer ça. Non, tu sais, mais je pense que je peux motiver assez de gens. Puis mm-hmm. J'aime faire ça parce que je vois même des commentaires dans les podcasts, les gens anglophones qui me suivent, qui disent « Ah, je pratique mon français maintenant à cause de toi, parce que tu sors les French cast, tu sais, c'est bon. » Puis enfin, ça, c'est bon.
Ça, ah c'est oui, bon, c'est ça qu'il faut faire.
Ouais.
Puis moi, je trouve que c'est ça, Montréal, il faut blender les deux. Là. Tu sais, moi, je veux qu'il y ait plus d'humoristes francophones qui jouent en anglais, puis vice-versa. Là.
Ouais, puis même juste les arts. Moi, j'aime ça entendre que le monde, « Ah, oh, maintenant, je dois... » Tu sais, je suis francophone, je vais écouter ça parce que c'est en anglais, mais c'est les gars que j'aime. « Ah, je suis anglophone, il fait des podcasts en français, je comprends le français, je vais commencer à écouter ça.
Ouais. »
Parce que tu tombes sur d'autres artistes. Tu sais, ils aiment l'invité. Tu sais, qu'est-ce qu'ils font? C'est automatique, ils vont te suivre. Après, toi, tu poses quelque chose en français, ils rient, ils likent, ils chient avec leur ami. Ouais. Et après, il y a une autre amie qui dit « Ah, oh, shit, tu t'es jamais rentré dans la scène française, je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est drôle, je rentre dans ça. » Puis, tu crées un écosystème mm-hmm. des gens qui regardent puis aiment les deux, comme dans ma tête, ça devrait être à Montréal ou à Québec au moins. Puis, ils font ça automatiquement. Puis, j'aime ça.
C'est cool, ça. Ouais. C'est vraiment cool. Je suis un peu de même aussi, genre, tu sais, moi, mettons, dans mon cercle d'amis humoristes, j'étais toujours celui qui poussait un peu les autres à essayer des trucs comme ça. T'sais, même mes amis qui sont rentrés à l'école d'humour, ils hésitaient à faire de l'humour, à devenir humoriste. Puis je voulais les pousser aussi parce que je les trouvais plus drôles que moi, sans doute. Ouais, ouais. Ce feeling-là, moi, je sais pas toi, j'ai le feeling que ceux qui sont trop bons dès le départ ou trop naturellement, c'est comme un curse parce que sont plus drôles que ce qu'ils vont écrire.
Ouais, ouais. Il y a ça. Puis, si quelqu'un est trop drôle... Parce que moi, au début, j'avais un peu de succès. J'étais assez drôle, mais j'avais toujours peur de ne pas... Parce que pour moi, c'est tout différent. Moi, je ne pensais pas que je vais être drôle sur la scène. Alors, pour moi, j'avais un complexe.
Okay.
Chaque fois que je faisais une bonne set, je disais, OK, le prochain va être de la merde. Tu sais, j'avais un grand, grand complexe avec ça pour des années. Je ne savais pas comment gager ça parce que je ne savais pas pourquoi le monde riait. Je sais que c'était drôle pour moi ou pour mes amis, mais je ne comprenais pas comment est-ce que toi, mm-hmm. tu comprends qu'est-ce que je dis. Je pensais que je vis ça toute seule. Alors, je comprends tout de suite. Ça m'a fait apprendre plein de choses de comment on est vraiment, vraiment... On est tous pareils, comme on a beaucoup de choses qui overlapent.
Mm-hmm.
Tu es un gars, tu es une fille, tu es... t'as 70 ans, t'as 20 ans, on a plein de choses en commun. Puis, ça m'a fait vraiment réaliser ça. Quand je regardais quelle face rit, je dis, oh, ça c'est bizarre. Je pensais pas que c'est avec elle que ce joke-là va connecter, oui. Mais ça connecte. Puis on apprend plein de choses à propos du monde
ouais.
en faisant du stand-up. Puis ça m'a donné du courage. Je dis, OK, s'ils me comprennent, j'ai pas besoin à expliquer trop. Ça, c'est. Si on vit quelque chose de magique, ça, c'est. Puis j'ai commencé à voir le stand-up différemment.
Mm-hmm.
Puis je commençais à l'apprécier beaucoup, beaucoup plus. Cette connexion-là que tu as avec le monde quand il commence à rire. C'est quelque chose que tu peux pas décrire à quelqu'un qui ne fait pas le même job que nous.
C'est vrai, puis je suis tellement d'accord. Là, comme l'âge, on dirait que moi, vu que j'ai commencé jeune, j'étais toujours intimidé par des crowds plus vieilles. Parce que c'est comme, qu'est-ce qu'ils vont tirer de ça? Mais en vieillissant, je réalise qu'on est la même personne plus vieille.
Ouais.
on reste cette personne-là, puis ça change pas trop. L'autre jour, en fait, il y a comme 2 mois, j'étais au Théâtre Sainte-Catherine, puis j'ai essayé une joke, c'était que des jeunes, et genre une madame de 65 ans avec sa fille, genre, dans la salle. Puis je parlais de méditation, comme quoi, tu sais, la méditation, c'est juste repousser le moment où dans ta tête, tu dis que tu as envie de te tuer.
Un sujet de hippie, ouais.
Puis la seule personne qui a ri, c'est elle.
Tu vois?
Les autres étaient toutes mal à l'aise avec des jokes de comme penser à s'enlever la vie, puis elle était genre, oui.
Plein de fois, crois-moi. Puis elle pointe à sa... avec elle, crois-moi, plein de fois. Oh, fuck. Mais tu vois, c'est des moments comme ça, puis c'est difficile à décrire à des gens.
Ouais.
Mais moi, j'apprends à chaque fois que je prends la scène ou à chaque fois que je parle avec un humoriste, j'apprends quelque chose de nouveau. Puis je vois que ça ne termine jamais. Ce que je trouve qui est bizarre, mais d'une bonne façon, d'une belle façon, c'est que tous mes autres jobs que j'avais, il y avait toujours une sensation de quelque chose est complet, une fait accomplie. Si c'était un projet, on travaillait sur un jeu vidéo, il y a une date... Même si on doit le pousser à cause qu'il y a trop de bugs, mais il y a toujours une date que le jeu va sortir, puis une date que ça va être terminé, puis on commence sur un autre projet. Mais je trouve que l'humour, même si ton heure est complétée, puis tu le filmes, il y a toujours quelque chose, des fois, oh, je peux rajouter ça à ce joke-là, à cette joke-là, ou même en oh, je crie trop pendant le début, je ne devrais pas. Il y a toujours quelque chose que tu apprends à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, ouais, ou que tu te vois, ça évolue. C'est vraiment, vraiment bizarre parce que ça n'arrive pas avec d'autres jobs, ça. Habituellement, quand tu as une start date, tu termines quelque chose. Même tu vends quelque chose, okay, à 5 heures, c'est terminé, tu as vendu, on fait une restock. Mais nous, tu peux avoir une blague qui marche, mais tu adaptes et tu changes pour un an. Parce que oui, ça marche, mais je peux changer quelque chose.
Il y a mieux, ouais.
Oh, c'est fou!
Mais c'est comme la meilleure chose et la pire chose en même temps, ça, parce que c'est le fun de finir quelque chose. Mais en même temps, tu sais, quand tu le finis pas, t'as le goût de creuser, tu deviens un peu obsessif avec ça, mais ça fait mal un peu. Ouais.
Tu sais, c'est comme mon truc, moi. Si tu veux vraiment terminer, tu le mets en ligne.
Ouais.
C'est pour ça que j'évite de mettre des choses que ou bien j'aime pas ou je pense pas qu'ils sont terminés en ligne, parce que si je le mets en ligne, là, c'est brûlé. Le joke est là pour tout le monde, c'est pas quelque chose que je peux refaire. Alors, si... J'ai une heure que je suis sûr que okay, je suis satisfait avec, puis je veux faire quelque chose d'autre, mais je veux que ça reste. Je le filme, puis là, je sens bien. C'est là, ça existe.
C'est fait.
Mais j'évite de faire ça parce que, beaucoup de fois parce que je ne suis pas prêt. Il y a plein de choses que je travaille encore. Ça. Je dis, oh, je peux améliorer ça.
Ben, la meilleure joke, je trouve que tu y penses le lendemain de l'avoir capté.
Oh, ouais, c'est ça. Oh, fuck.
Shit.
Recule le temps, ouais.
Ah, puis c'est tough, c'est dur une captation. Je sais pas combien de fois tu t'es filmé, là, mais...
Ouais, 3-4 fois je m'ai filmé, puis tout était stressant, tout était dur. Parce que je faisais chaque fois one shot, alors c'était pas comme je faisais deux shows, puis on mixait ça. Alors t'es toujours stressé.
Ouais, puis tu sais, t'as travaillé fort pour ça. Là. Moi, hier, je pensais à ça, puis j'étais comme ça fait 3 mois que je travaille sur le même 10 minutes. Puis en 10 minutes, c'était fini. Là.
Ouais, et c'est...
C'est tout, là. À ce moment-là, c'est ça que ça devient. Tout le reste fait plus de sens. C'est juste ce moment-là, comment je l'ai fait, qui a.
Ouais, même si tu l'as fait meilleur, une autre fois, on s'en fout. C'est ça qui va rester.
Exact, exact. J'ai une prémisse au début que j'ai moins bien fait qu'à l'habitude. Puis je suis comme shit.
C'est bizarre, non? Comment on. I don't know. C'est ça. Puis tu sais quoi d'autre? On fait. Ça, c'est bizarre de notre job. Puis l'autre, c'est. Quand on dit quelque chose mal, mais ça marche, puis t'es comme, je dois-tu continuer à dire cette joke-là d'une façon que j'avais pas pensé, puis je voulais pas dire parce que c'est mal, parce que ça marche meilleur. Comme, qu'est-ce que je fais?
Mais ça remarche jamais.
Non, c'est ça.
Moi, je réalise, là, c'est du moment, là. Faut juste...
C'est toujours quelque chose, ouais, c'est une vie, c'est une job vraiment particulier. Puis moi, j'adore ça, j'adore tout. autour de ça. J'adore l'écriture, j'adore l'expérience que j'ai, j'adore discuter avec quelqu'un dans le green room. T'as-tu vu ça? Pourquoi est-ce que tu penses qu'ils ont ri à ça puis ils ont été choqués à propos de ça? Puis tout ce qui est autour, ça me fascine. Je peux jamais... Tu sais, t'as toujours des jobs que... OK, enough. Je suis tanné. Je suis jamais tanné avec ce qu'on fait.
Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est
pour ça qu'on fait ça, ouais.
Ma blonde comprend pas. Moi, des fois, tu sais, je passe la journée à faire ça, à écrire. Je vais faire 3 spots. Je reviens chez nous. Je prends des notes. J'écoute un show. Comme, ma blonde est comme, y a-t-il un moment dans ta journée où c'est pas ça que tu fais?
Lui, il voit ça beaucoup parce qu'il est autour du stand-up. Tu sais, il est avec moi, avec Mike, il voit plein de choses différentes. Il voit des théâtres, il voit des clubs, il voit des podcasts. Puis il y a des journées où il me dit, je sais pas comment tu fais ça. Je commence la journée à, tu sais, on filme le premier podcast à 10h. Je sors, je viens ici, on fait 3 podcasts de suite. Je dois éditer, faire le montage pendant 2 heures. Après, je sors pour faire une show de stand-up. Puis il est comme, comment est-ce que tu... C'est pas une vie, ça. Tu sais, mais je me rends même pas compte que j'ai toute une journée de travail. Je suis heureux. Je suis comme, j'ai discuté avec le monde, je fais du montage, je dois écrire. Il dit, comment tu fais ça? Tu cours d'une place à l'autre. T'es toujours... C'est comme si quelqu'un te chasse. Parce que quand t'as plein de choses...
Ouais,
mardi, on a fait ça. Je fais 3 podcasts ici. 3 podcasts, je sors pour faire le show extérieur. Il pleuvait, alors ils ont annulé notre show, mais dernière minute, on a poussé ça. Après, je vais à une soirée d'humour, je sors vite. Oh, chez de l'autre, je dois être là dans 10 minutes. Je sais, j'ai fait tout ça dans une journée, puis j'étais heureux.
Ouais.
Dans d'autres jobs, si tu chasses partout, puis tu dois aller d'une place à l'autre, t'es tanné.
C'est pesant, là. Ouais.
Mais nous, on est prêts à faire tout.
C'est la beauté, là. Moi, j'adore ça, là. Arriver dans un show que j'ai pas vu, puis tu t'insères, t'es là un bout, tu disparais, t'es. Ah, moi, j'adore c'est ce ça. Que je préfère.
Ouais, on est fucking bizarre. Puis comment est-ce que tu vois. Les podcasts, c'est quoi la connexion que tu fais entre les podcasts puis ton job comme humoriste le soir, stand-up?
Moi, je trouve que ce que je retire du podcast, c'est je me force pas à être drôle, comme je fais juste parler puis vivre le moment avec toi. Puis je pense qu'il faut faire ça sur scène aussi. C'est le truc qu'il faut amener, mais qui est le plus difficile, de juste être naturel, puis parler, puis c'est là que ça devient réellement intéressant puis efficace.
Est-ce que tu trouves bizarre quand tes amis humoristes, ils te demandent, puis tu leur donnes cette consigne-là, puis pour eux, c'est difficile de le faire, d'être naturel? Moi, j'ai des amis humoristes qui disent, je sais pas ce que ça veut dire, je peux pas être moi sur la scène. Puis j'essaie de dire, ben oui, tu peux. Je t'invite, puis tu es sur mes podcasts. Je sais que tu peux être naturel, mais dès qu'ils ont le micro en main et ils sont tout seuls, ils ont besoin d'être un personnage.
Ouais, ça, je trouve ça poche parce qu'on dirait que moi, je suis pas bien dans cette énergie-là. Mettons,
moi non plus.
Je joue quelque chose qui est pas moi, je me sens pas bien puis je m'en veux un peu à la fin du show. Puis quand j'arrive à vraiment me laisser aller puis faire chaque joke que j'ai le goût de faire, c'est là que je suis fier puis que je suis heureux, là.
Est-ce qu'il y a-tu des fois où tu évites de faire le joke que tu veux faire?
Ben oui.
Mais on va pas dire comme des galas et tout ça, c'est différent. Il y a des règlements que tu essaies de suivre. On est quand même des professionnels. Mais je veux dire, dans des bars, y a-tu des sujets des fois qui t'évites, mais tu es comme « fuck, j'aurais pas dû éviter ça ».
Ouais, parce que, mettons, ce que je trouve dur dans les bars, c'est que t'arrives au milieu de la soirée, puis les gens te connaissent pas nécessairement, puis t'as 10-12 minutes. Fait qu'on dirait que d'aller en profondeur tout de suite, c'est particulier. Mais en même temps, si tu y vas jamais, tu deviens cet humoriste-là qui est un peu comme flottant en surface. Je sais pas c'est qui, mais c'est drôle. Tu sais, il y a comme...
Mais on le connaît pas.
Non, c'est ça. Je suis pas attaché à lui. Je comprends pas ce qu'il fait nécessairement, mais ça marche, tu sais. Fait il y a ça que je trouve tough, là. Faut comme se forcer à aller un peu partout. Mais ouais, il y a plein de fois où je suis pas moi-même, là. Ça revient trop naturellement, parce qu'on dirait que quand t'arrives à être pleinement toi-même, c'est là que c'est le plus efficace. Ouais. Mais quand t'es à 95% toi-même, t'es dans une espèce de zone où ça marche pas du tout. Je sais pas si c'est clair pour toi, là,
c'est,
mais...
C'est 100% clair. Je pense dans ma tête, puis je revive des moments.
Tu sais, mettons, je te donne un exemple. Je trouvais que avant la pandémie, surtout, j'étais vraiment trop axé sur la réaction des gens.
OK.
Puis je regardais mon matériel, puis il y a plein de choses qui me faisaient pas rire du tout, tu sais. Des choses que je faisais, ah, mais ça, ça a juste déboulé vers ça. Je l'ai essayé, ça a fonctionné, je l'ai gardé. Puis pendant la pandémie, j'ai créé un show virtuel.
OK.
Que j'ai juste
qui marchait juste virtuellement.
Juste sur Zoom, là. C'est tout ce que j'ai fait. Je l'ai rodé là-dessus, je l'ai capté sur Zoom. Tu sais,
juste pour Zoom,
ouais. Ouais, juste pour Zoom. Puis c'était mon but, c'était comme, je vais faire un show où la réaction des gens m'importe peu. T'sais, parce que je ne vais pas les entendre.
Ça, c'est intelligent comme stratégie.
Je ne vais pas les voir. Puis, à force de le faire, je suis allé dans des zones où je n'aurais pas été. Mais tu vois, à partir de comme la 10e date de rodage, ça revenait. C'était plus fort. C'était comme, il faut que ce soit efficace. Il faut que ça les rejoigne. Fait que je trouve que c'est dur là, de trouver cet équilibre-là. Hein. C'est vraiment ça que je veux dire. Mais pour pouvoir le dire, il faut que vous riez à tel moment.
Sinon...
Puis pour que vous riez à tel moment, ça prend peut-être ça qui est moins moi, mais ça me permet d'aller plus loin dans moi. Fait que je trouve ça dur de jongler avec ça.
C'est dur. C'est dur. Moi, j'ai pas la réponse, moi non plus. C'est pour ça que je demande. Des fois, je demande une question, puis le monde pense, « Oh, peut-être lui, il a la réponse. » Non, c'est pas que j'ai la réponse, mais parce que je vis la même chose. Il y a des fois où t'es comme... Je sais où je veux aller, mais c'est difficile... de vous amener avec moi. Tu sais? Puis, c'est le plus... Si on veut le mettre vraiment simple, ça arrive vraiment quand tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu as juste 7 minutes, c'est vraiment difficile de rentrer dans des choses plus dures, même si tu peux les faire drôles, à cause que si le public ne te connaît pas, tu dois prendre le temps de le laisser te connaître pour qu'ils puissent te laisser ouvrir la porte et rentrer ensemble. Sinon, c'est comme... Ah, je sais que si je l'amène là-bas, ça va marcher, mais c'est impossible de les amener là-bas sans qu'ils me connaissent bien. C'est bizarre à dire, mais s'ils ne te connaissent pas assez comme personne, comme ton angle, il y a des sujets où c'est trop difficile d'aborder avec eux.
Ils ne te feront pas confiance.
C'est ça. Ouais. C'est comme, man, quel métier de fou!
C'est débile. Puis plus tu avances, plus tu veux pas te planter.
Ouais.
Parce que tu as été bon. Tu as réussi à être bon. Fait que là, tu veux pas vivre une soirée où ça marche pas du tout.
Tu sais, qu'est-ce que je fais des fois quand je veux faire du rodage? Je m'assume. Je dis, écoute, puis je dis au monde qui est avec moi, ça va pas aller bien. De quoi tu parles? Mais t'es bon, tout le monde va. Ça va pas aller. Écoute, ça va pas aller bien parce que je dois essayer des choses. C'est des choses. Je dois le faire. Je vais me planter. Je te dis maintenant, je vais me planter. Préparez-vous. Puis après, je sors. Tu sais, parce que je me prépare mentalement. Parce que si tu as trop peur, tu retournes à les choses que tu sais qui vont marcher. Mais si tu ne testes pas, si tu ne pousses pas un peu tes limites, tu n'évolues pas. Alors, tu dois être prêt à mettre ton ego un peu à côté. Puis dire, écoute, je dois perdre. Ce soir, je dois perdre. Mais à cause que je perds ce soir, je vais gagner plus tard.
Ouais.
Mais ça m'a pris du temps à accepter ça. Au début, j'avais peur quand je faisais bien. Je veux tester quelque chose, mais je peux pas parce qu'ils vont penser que je suis pas bon et tout ça. Puis maintenant, je m'en fous. Je dis non, écoute, fuck ton ego, on oublie ça. Moi, mon préféré, c'était toujours Eddie Murphy. Lui, je suis sûr qu'il s'est planté de qu'est-ce que je fais avec ses histoires. Puis c'est une des meilleures. Louis C.K., n'importe qui, il se plante.
Ah ouais, c'est ceux qui se sont le plus plantés. Là.
Moi, je suis pas quelqu'un meilleur que eux. Alors, moi, je vais être, tu sais, une élitiste. Oh, ça arrive pas à moi. Non, oublie ça. Non, tu dois pratiquer, man.
C'est vrai, même Louis, dans sa série, il y a des clips de stand-up filmés. Puis ça se passe pas toujours.
C'est des vrais clips. C'est des vrais clips au Cellar, ouais.
Ouais, exact. Puis l'autre place, c'était-tu le. Je pense que c'était le Caroline's. Ou,
ouais, Caroline's, ouais.
Puis il y a des fois où c'est comme. All right, good.
mais tu dois vivre ça. Je pense pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu dois être prêt de détruire la moins bien version de toi. Tu sais, comme un upgrade. Tu ne peux pas avoir un upgrade si tu veux garder le vieux. Tu dois te séparer. Mais ça fait mal. Parce que pour nous, pour faire la séparation, on doit prendre des claques.
C'est nous,
oh,
là.
Oh, man. Ouais.
Moi, j'ai de la misère à dissocier les deux. Là. Si j'ai eu vraiment un mauvais show, là, t'sais, un show qui a mal été, je reviens chez nous, puis...
Oh, moi aussi, ça me fait... Oh, je dis pas que je suis cool avec. Ça me fait mal. Puis, tu sais, je suis après dans le green room, puis fuck, ça fait mal. Qu'est-ce que... Mais je dois le vivre, sinon, je vais pas évoluer, puis... Mais oh, je sais pas que c'est facile pour moi. Moi, c'est vraiment difficile. Parce que je sens que j'ai déçu le monde, tu vois?
Ouais.
Sans déçu. Fuck, j'aurais pas dû faire ça.
Faut comme arriver à avoir du recul là-dedans pour que les gens le sentent. Tu sais, les gens aiment quand même ça quand on se plante vraiment. Puis qu'ils savent qu'on est bon. On dirait qu'il y a ça que...
Ouais, parce que c'est jamais... Je dois dire, les dernières années, tu deviens un professionnel, c'est jamais comme full plantage. C'est jamais comme c'est qui, lui, c'est affreux. C'est plus que c'est pas vraiment à tes standards à toi.
Ouais.
Puis, tu sais qu'est-ce qui est bizarre? Tu te plantes dans ta tête, tu dis, ça, c'était pas bon. Mais il y a plein de fois où moi, je n'étais pas heureux avec, mais le monde, ils ne savent pas que moi, dans ma tête, j'ai mes standards à moi. Alors, eux, ils étaient heureux. Ils disaient, oh, c'était drôle. Puis, non, c'était pas bon. C'est de la merde. Pourquoi tu parles? On riait, c'était du fun.
Là, tu changes tranquillement leur perception.
Tu sais pas de quoi tu parles. C'est pas bon. Et après, t'as l'air d'un psychopathe.
C'est comme écrire à une fille, tu sais, qui t'invite sur une deuxième date. Ah non, désolé.
Je sais que c'était pas allé bien. Non, c'était allé bien, c'est pour ça que je vais faire une deuxième date.
Honnêtement, non, j'étais vraiment bizarre.
Ouais, c'est ça qu'on fait. Écoute, Charles, toi, la place préférée où tu veux que le monde te suit, c'est où?
Instagram.
Instagram?
Ouais, Instagram, c'est le best. Puis, ça sort quand? Cet été, automne?
Ça va sortir dans une semaine, je pense.
Ah, OK, cool.
Parce qu'ils ont plein d'épisodes, ouais.
Cool. J'inviterai les gens. J'ai commencé à faire des shows extérieurs.
Où ça?
Un peu partout. Ça s'appelle le Chaise Pliante Tour.
OK.
Puis, on s'en va dans des vergers, des vignobles, des cidreries.
Puis, pendant tout le mois d'août, puis tout ça, ça va arriver?
Ouais, jusqu'en septembre.
Ah, oh, parfait. OK, ils vont voir ça, ouais.
Puis, t'amènes ta chaise. On joue dehors. Il y a des autobus pour faire le décor. Puis, that's it, tu viendras jouer.
Ah, oh, ouais, bien sûr. Quand est-ce que tu veux, je viens. Ah, oh, ça, c'est cool.
Ouais.
Ben, tous tes liens sont déjà dans la description. Moi, je demande toujours c'est quoi ta place préférée parce qu'il y a toujours quelque part qu'un humoriste est plus actif.
Mm-hmm.
Alors, je demande ça. Mais tous les liens sont dans la description. Charles Pellerin.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.